se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à lundi, 68% de remise immédiate sur la deuxième boîte de capsules de lessive Homo 3 en 1.
À 22 centimes la lessive, je veux bien faire celle du voisin.
Eh ben comme ça, tout le monde est content. Auchan, avec plaisir. 11,87€ les deux boîtes de lessive Homo Monoï au lieu de 17,98€. 8,99€ la boîte vendue seule, soit 12,71€ le kilo. Existant d'autres variétés valables sur le moins cher dans vos magasins et drive Auchan participants et en livraison à domicile. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
Vous écoutez
RMC.
Mercredi 28 septembre,
l'info sur RMC.
Tout pile 7h sur RMC et RMC Story. Excellent réveil à vous tous. Le journal de Marguerite Dumont. Bonjour Marguerite.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. La réforme des retraites lancée en janvier, nouvelle option envisagée par Emmanuel Macron. Le chef de l'État et sa majorité devraient ce soir se mettre d'accord. Le sabotage ne fait aucun doute. Le gazoduc Nord Stream touché par 3 fuites. Reste à savoir qui est le commanditaire. Et puis ce match de gala gâché au Parc des Princes. Belle victoire du Brésil, certes, face à la Tunisie, mais dans les tribunes des supporters aussi. Style, voire raciste.
La réforme des retraites, quand et comment, ça se précise?
Cette réforme clé du quinquennat pourrait être reportée, lancée en janvier prochain. Une troisième voie envisagée par Emmanuel Macron, ça sera au menu en tout cas d'un dîner autour du chef de l'État ce soir. À table, ministre et poids lourd de la majorité, majorité très divisée. Du coup, l'objectif, c'est de se mettre d'accord, Sébastien Krebs.
Un dîner pour espérer remettre la majorité d'équerre. Autour de la table, Édouard Philippe dira que peu importe la méthode, il est temps maintenant de l'annoncer. François Bayrou, lui, restera sur sa ligne et celle des députés Modem qui font bloc. Hors de question de soutenir une réforme si importante si elle est bâclée en quelques semaines par amendement. Alors le président pourrait proposer une troisième voie, temporisée jusqu'en janvier et faire passer la réforme dans un budget rectificatif de la Sécu. Montrer que les critiques ont été entendues, en somme. Mais gardez ouverte l'option du 49-3 en cas de blocage. Une piste sérieuse, dit-on à l'Élysée, acceptable, répond un élu du Modem, mais sous réserve que l'on parle aussi de l'emploi des seniors. Voilà peut-être de quoi se réconcilier au dessert, en attendant un déplacement du chef de l'État qui sera scruté vendredi à Pau, sur les terres de François Bayrou.
La réforme des retraites, le pouvoir d'achat, avec cette grève demain à l'appel de la CGT, le syndicat prévoit 200 rassemblements en France, grève sans trop de conséquences dans vos transports, perturbations limitées à la SNCF et à la RATP. La politique sur les terrains de foot aussi, la NUPES et les macronistes refusent de taper la balle avec les députés Rassemblement National. L'équipe de foot de l'Assemblée nationale avait un match caritatif prévu ce soir. C'est incompréhensible pour Alexandre Sabatou que nous avons interrogé. Il était sur la liste du match et il est député RN de l'Oise.
Je suis très déçu de cette décision parce qu'il faut le rappeler que c'est un match caritatif. On se bat pour une association qui lutte contre le cyberharcèlement des enfants, qui est une problématique très actuelle. Et donc je regrette que ces politiques n'arrivent pas à passer au-dessus des clivages. J'aimerais que ces députés reviennent dans le monde réel. On a été élus démocratiquement. On ne représente pas de menace. Les Français ont montré qu'ils étaient très contents de la nouvelle composition de l'Assemblée. On représente le peuple français et il serait temps qu'ils s'y fassent.
Et notez d'ailleurs qu'à 8h10 tout à l'heure pour le parti pris, c'est Carl Olive qui sera dans ce studio. Carl Olive, il est député Renaissance des Yvelines. C'est lui qui organise ce fameux match des députés de l'Assemblée nationale. Et il nous dira tout à l'heure si ce match est donc maintenu ou non. Il est 7h02 sur RMC. Du gaz qui continue de se déverser au large du Danemark dans la mer Baltique.
Avec cette question ce matin, qui est responsable de la fuite du gaz du gazoduc Nord Stream? Le sabotage semble ne faire aucun doute, c'est en tout cas ce que dit l'Europe. Deux pipelines qui sont hautement stratégiques, il faut bien le comprendre. Elles relient la Russie à l'Europe, très précisément l'Allemagne. Des gazoducs qui n'étaient plus opérationnels depuis la guerre en Ukraine. Les précisions de Nicolas Repère pour RMC.
Des milliers de petites bulles qui remontent à la surface sur plusieurs centaines de mètres, comme une ébullition géante en pleine mer Baltique. Le responsable de ces actes délibérés ne fait aucun doute, tranche Johannes Peters, chercheur en sécurité maritime à l'université de Kiel en Allemagne.
Quand on regarde la complexité de ces attaques et quand on sait à quel point il est difficile de réussir un tel acte de sabotage, alors il est fort probable qu'un acteur étatique soit impliqué. Et il n'y a qu'un seul État dans la mer Baltique qui possède à la fois la capacité capacité et la motivation pour le faire. Et c'est évidemment la Russie.
Moscou dément être à l'origine de ces attaques et se dit extrêmement préoccupé par la situation. Ces fuites n'auront pas de conséquences économiques immédiates, prédit Thierry Bross, spécialiste des questions d'énergie.
Ça ne change rien à l'offre puisque ces pipes n'étaient pas en fonctionnement. Mais si d'autres pipelines venaient à être attaqués, effectivement, à ce moment-là, le prix du gaz s'enflammerait puisque nous avons besoin de toutes les molécules de gaz qui sont produites à cet instant.
Des fuites qui seraient sans danger pour l'écosystème maritime, mais le méthane relâché dans l'atmosphère participe au réchauffement climatique.
Et puis, sans surprise, quatre régions pro-russes disent massivement oui à l'annexion à la Russie. Référendum organisé par Moscou. Nous agirons pour défendre notre peuple, a répondu cette nuit le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Des résultats illégitimes pour l'Europe qui prévoit de nouvelles sanctions. Il est 7h04 sur RMC. L'affaire Péchier du nom de cet anesthésiste soupçonné d'empoisonnement. Le nombre de ses potentielles victimes s'alourdit encore un peu plus. Déjà mis en examen pour 24 empoisonnements, dont 9 mortels. La justice s'intéresse à de nouveaux cas suspects. 8 nouveaux cas suspects étudiés, Marion Dubreuil.
Oui, c'est un point d'étape dans l'attente de tous les résultats d'expertise d'ici janvier prochain. Un nouveau délai que le procureur de la République de Besançon, Étienne Manteau, a tenté de justifier hier lors d'une conférence de presse.
J'ai bien conscience de cette longueur terrible de cette information judiciaire, tant pour la mise en examen que pour les parties civiles. On a une expertise qui, de fait, a fait perdre 2 ans à l'information judiciaire avec une contre-expertise qui s'est avérée inexploitable.
Des excuses insuffisantes pour maître Frédéric Bernat, qui représente une quinzaine de parties civiles.
Ça fait du mal aux victimes que je représente. Elles n'en peuvent plus. On ne peut pas, dans un dossier aussi sensible, venir se rendre compte qu'on n'a pas d'experts à la hauteur. Au bout de 5 ans, on a des victimes de la première heure qui sont encore avec toutes leurs interrogations et dans l'attente d'un procès.
Une attente qui ronge également le docteur Péchier, placé sous contrôle judiciaire dans la Vienne, loin de sa famille et interdit d'exercer, alors qu'il ne cesse de clamer son innocence.
Marion Dubreuil du service police-justice d'RMC.
7h06, le foot, soirée gâchée hier au Parc des Princes.
Sur le terrain, ça va, victoire 5-1 face aux Tunisiens. Mais quand on se tourne vers les tribunes, ça va pas du tout, avec une ambiance hostile du côté des supporters, Arnaud Valadon.
Alors que l'hymne tunisien vient d'être magnifiquement repris en chœur par plus de 35 000 supporters, l'hymne brésilien est ensuite sifflé. Les visages des joueurs se tendent, le Parisien Marquinhos et ses coéquipiers sont vexés, mais l'épisode le plus marquant de la soirée intervient à la 19e minute. Richarlison, l'attaquant de la Seleção, marque. Alors qu'il fête son but au poteau de corner avec ses partenaires, des bananes sont projetées depuis les tribunes. Une image qui a choqué l'ancien Parisien capitaine emblématique, Thiago Silva.
J'étais triste avec le geste qu'ils ont donné. J'étais à banana avec Richarlison. Ça me laisse franchement très triste, parce que c'est pas le foot, ça. Et des gestes comme ça, des vidéos, c'est pas bon pour le foot.
Une rencontre interrompue plusieurs fois par des lasers verts qui visaient notamment Neymar depuis les tribunes et qui l'éblouissaient. Les Brésiliens ont vécu une soirée très difficile hier à Paris.
Et ce chiffre qui va alimenter la polémique sur le mondial de foot au Qatar, qui est dans 2 mois, chaque jour, plus de 160 vols quotidiens à coût réduit seront proposés aux supporters résidents dans les pays voisins du Qatar pour aller assister au match. Une nouvelle aberration écologique, diront certains.
Comme on prend le bus, quoi.
Comme on prend le bus,
comme
exactement.
Comme on prend le bus, tranquillou. Il est 7h07 sur RMC, c'était le journal de Marguerite Dumont.
RMC s'engage pour vous.
RMC s'engage pour vous avec le grand retour d'Amélie Rozic. Chère Amélie, bonheur de vous retrouver. Alors, vous avez été contactée à l'adresse RMC pour vous, @rmc.fr, par un couple d'auditeurs.
Oui, Alexandre et Alexandra, ça ne s'invente pas, un jeune couple de trentenaires, heureux, qui projette de se marier le 5 août prochain. Et pour être sûr de ne pas se louper, ils décident de faire appel à un wedding planner, vous savez, un organisateur de mariage clé en main. C'était en avril dernier, ils se tournent vers Noce & Co, une petite entreprise en Dordogne où ils vivent. Le courant passe très bien avec le gérant qui leur promet de s'occuper de tout pour 10 000 euros, faire part, réception, musique, traiteur. Ils se rencontrent à 2 reprises, signent un contrat et versent un acompte de 3 000 euros. Les semaines passent, sauf que rien ne se passe justement. Le wedding planner n'organise rien et quand le couple réclame d'être remboursé, plus de son, plus d'image, le téléphone de l'entreprise ne répond plus, les locaux sont vides et le couple est désespéré.
C'était censé être le plus beau jour de notre vie et ça commence à être le pire, quoi. On a quand même envisagé d'annuler le mariage parce qu'on n'a pas assez d'argent. Les 3000 euros en moins, c'est énorme, quoi, pour un mariage. C'est un stress permanent, on y pense tous les jours. Il n'y a pas un jour où ça devient limite tabou de parler de mariage, hein, dans la maison, quoi. Ma compagne pleure tous les soirs, je l'entends pleurer tous les soirs. Je suis impuissant devant ça. On est vraiment au bout. On peut vraiment plus, quoi.
Amélie, comment on peut les aider ?
Alors, nous avons étudié le contrat signé par le couple et enquêté sur l'entreprise. Le greffe du tribunal de commerce nous a confirmé que la société existe bel et bien, mais le numéro Sirène est sous un autre nom. Cela peut être un nom commercial que le gérant aurait oublié de déclarer, nous explique-t-on. En tout cas, aucune procédure contentieuse n'est enregistrée pour cette entreprise. Nous avons donc contacté directement le gérant au téléphone et nous avons eu beaucoup plus de chance que le couple puisqu'il nous a répondu. Très mal à l'aise, il s'est justifié en évoquant des problèmes personnels. Il dit avoir mis sa société en stand-by et ne peut donc plus honorer le contrat. Face à notre insistance, il s'est engagé à rembourser les 3000 euros à notre couple d'auditeurs dans un délai de quelques semaines.
Oui, j'imagine que vous allez vérifier que ça arrive bien sur le compte en banque d'Alexandre et Alexandra. Ils vont pouvoir s'occuper un peu plus sereinement peut-être de leur mariage.
Oui, en tout cas, de notre côté, évidemment, on continuera d'insister auprès du gérant s'il le faut. Le couple, lui, prévoit de faire appel à la justice d'ici la fin du mois prochain si rien ne bouge. Mais en attendant, ils se débrouillent en fait très bien sans wedding planner puisqu'ils ont déjà trouvé le lieu, le traiteur, le fleuriste, le DJ, le photographe. Et si tout se passe comme prévu, on espère quand même recevoir un faire-part.
Et on les félicite évidemment, Alexandre et Alexandra. On pense à eux. Merci beaucoup Amélie, j'avais fait un petit... Amélie Rosic, qui s'occupe de vous et qui s'engage pour vous. Vous connaissez l'adresse RMC pour vous, @rmc.fr, il est 7h10.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Vous êtes parents, le témoignage qui suit va vous glacer le sang. Ambre, une petite fille de 3 ans, a été oubliée, littéralement oubliée dans le car scolaire pendant plusieurs heures la semaine dernière. Son père est le témoin du jour, il sera dans ce studio dans un instant.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Bienvenue sur RMC, il est 7h13.
Le témoin RMC.
Le témoin du jour, c'est vous, Rudy Louisère. Bonjour. Vous habitez en Seine-et-Marne. Vous êtes le papa d'une petite fille de 3 ans qui a été traumatisée. Elle s'appelle Ambre et ça paraît impensable. Mais la semaine dernière, alors qu'elle vient de faire sa rentrée à l'école, puisqu'elle est en première année de maternelle, elle a été oubliée dans le fond du bus. Elle est montée dans le bus à 8h15, le bus scolaire. Et entre 8h30 et 11h30, elle est restée seule, abandonnée, oubliée dans le bus. Ma première question, c'est de savoir comment va votre petite fille aujourd'hui?
Ça va nettement mieux. On a réussi, avec plusieurs ateliers, à la faire monter dans un bus hier. Notre objectif, c'était de désacraliser un petit peu qu'elle n'ait... qu'elle coupe le lien qu'elle a avec ce bus, qu'elle l'imagine plus festif, qu'elle oublie que le bus est synonyme de calvaire, de traumatisme. Donc on a réussi à prendre un goûter avec elle dans le bus hier. On est redescendu du bus, on est revenu juste après. On a été surpris de... elle est remontée dans le bus comme si notre activité avait fonctionné. Donc on en a profité juste après pour aller en direction de son école, puisque depuis elle n'est jamais retournée à l'école.
Depuis elle n'est jamais retournée à l'école, elle n'avait pas la force, elle était trop angoissée, elle ne voulait même pas remonter dans le bus, en effet.
Et pendant toute cette semaine, elle ne cessait de répéter pas école, pas bus, pas école, pas bus.
Rudy Louzière, qu'est-ce que vous dit l'école? Qu'est-ce que vous a répondu le chauffeur de bus, l'école?
Alors c'est assez curieux, vous me direz. Nous n'avons eu aucune réponse, ni du chauffeur. Nous avons adressé 7 courriers recommandés à cette protagoniste de cette histoire. 4.
Quand vous dites la protagoniste, c'est qui? C'est la conductrice?
Alors, ce sont les 4 mairies qui constituent le RPI, oui. le regroupement pédagogique intercommunal. Donc on a adressé un courrier à ces 4 communes, à l'inspectrice académique de notre secteur, à la directrice qui est en charge le transport scolaire dans le département et à la responsable du transporteur.
Et vous avez eu aucun message?
J'ai reçu 4 appels de personnes bienveillantes, oui. Qui nous ont expliqué où avait échoué en fait la chaîne et les obligations des uns et des autres. on nous a identifié exactement pourquoi cette situation s'est produite et qu'elle n'aurait jamais dû se produire. Donc, c'est un discours qui nous a rassurés. Sauf que une de ces sept personnes nous a tenu un discours qui nous a vraiment inquiété.
Qui ? Quoi ?
Comme la procédure, elle est en cours, je ne souhaite pas forcément rentrer dans les détails, mais simplement pour dire que c'est justement ce discours qui nous a contraints à finalement porter plainte au bout d'une semaine.
Porter plainte, vous décidez, et vous nous l'annoncez donc ce matin, de porter plainte.
Tout à fait, parce que on imaginait que Ambre ne garderait pas de séquelles post-traumatiques, mais on l'a vu complètement changer cette semaine. J'ai même été interpellé par des amis de la famille qui m'ont quelque part même incriminé en me disant que ce serait assimilé à de la non-assistance à personne en danger sur la personne de ma fille si je ne portais pas plainte. Moi, ça n'a jamais été...
C'était pas votre état d'esprit au départ,
pas du tout,
hein,
pas du tout.
Bien.
Tout ce que je souhaitais, c'est que ma fille aille mieux. J'imaginais que ça irait très très vite avec tout ce qu'on a entrepris avec elle. Et mon seul souhait, c'était uniquement qu'elle aille mieux. Et le deuxième souhait, c'est que toutes les personnes impliquées dans cette situation prennent conscience... qu'on ne transporte pas du bétail. Et je souhaitais vraiment, au travers du courrier que j'ai adressé à ces sept destinataires, leur faire admettre...
Est-ce que quelqu'un s'est excusé ?
Quatre personnes se sont excusées. Et j'en remercie ces personnes qui ont été d'un soutien énorme. En revanche, d'autres ne l'ont pas fait.
Est-ce que le chauffeur s'est excusé ?
Alors, c'est assez curieux. Je vais vous dire une chose qui nous a vraiment touchés. Quand Ambre a été remise à sa mère, elle est descendue du bus, elle n'a jamais vu le chauffeur. Le chauffeur n'a pas dénié, en tout cas... En fait, ce mardi, Ambre ne prend jamais le bus. Sauf que en voyant partir un de nos fils prendre le bus pour le collège, elle manifeste le désir de prendre elle aussi le bus. Donc ma femme hésite quelques instants et finit par l'accompagner jusqu'à l'arrêt de bus qui est à 600 mètres de chez nous. Elle monte dans le bus à 8h15. Le bus prend la direction de son école, les enfants descendent, d'autres enfants remontent pour revenir sur la commune de Ballois. Le bus continue sa trajectoire jusqu'à la commune de Gravon et terminus, la commune de La Tombe. Les deux adultes qui sont dans le bus quittent le bus.
Ne vérifient pas, ne passent pas entre les rangs pour vérifier qu'il y a encore des enfants.
Je suppute, je ne veux pas porter un jugement, je ne veux rien dire de tout cela. En tout cas, Ambre reste dans le bus. Et à 11h45, ma femme reçoit un appel lui informant qu'elle vient juste de recevoir un appel de la maîtresse de La Tombe à qui on vient de ramener une petite fille. C'est le chauffeur qui la ramène en disant...
Donc, c'est pas du tout le village de son école?
Non. Non, non. C'est une des quatre communes du regroupement pédagogique. Et donc, le chauffeur ramène la petite Ambre à la maîtresse de La Tombe en lui disant, voilà, j'ai trouvé cette petite fille dans mon bus. Qu'est-ce que j'en fais?
Mais c'est un autre chauffeur puisque ça n'est pas celui...
Le même chauffeur.
D'accord.
Le même chauffeur. Donc, j'imagine qu'on a cherché dans ses affaires puisqu'elle avait son petit sac avec son carnet de liaison et la maîtresse de La Tombe fait le lien avec l'école de Bazoches. Donc, elle appelle la directrice de Bazoches et lui dit, voilà, j'ai la petite Ambre avec moi, mais entre-temps, la maîtresse d'Ambre s'était inquiétée de son absence et avait appelé la directrice de Bazoches. Et la directrice lui dit, ne t'inquiète pas, les parents sont sérieux puisque les quatre grands frères d'Ambre, on les connaît, c'est une famille qui est connue puisque je les ai eus comme... Et donc, personne ne s'inquiète.
Et personne à ce moment-là ne s'inquiète et finalement, votre petite fille est enfin retrouvée. Rudy Louisière, vous portez plainte? Vous portez plainte contre qui?
Alors,
pour quel fait?
Je préfère, avec mon épouse, laisser le parquet mener son enquête pour distinguer, désigner, pointer du doigt les dysfonctionnements et si responsabilité il y a, identifier les responsables dans cette situation.
Et faire en sorte que ça n'arrive plus et que ça n'arrive
c'est
plus.
C'est notre objectif. Déjà que notre fille aille mieux, et je suis confiant là-dessus. Là où je suis plus inquiet, c'est pour la suite, pour des parents qui malheureusement qui ne sont pas comme Ambre, qui sont dans l'obligation d'utiliser le transport, la coéducation avec des adultes qui ne sont pas forcément conscients du privilège qu'ils ont de travailler avec des enfants.
De travailler avec ses enfants. Rudy Louisère, merci d'être venu dans ce studio. Vous nous le dites donc ce matin, vous portez plainte pour cette oubli de votre petite fille de 3 ans, mais heureusement la bonne nouvelle ce matin, c'est que vous nous dites qu'elle commence à aller mieux et qu'elle a pu remonter dans un bus. Il est 7h20 sur RMC.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Le chiffre d'affaires avec Emmanuel Le Chypre et une marque bien connue des Françaises, Camailleux, qui joue sa survie à la barre du tribunal de commerce aujourd'hui. Et puis il y aura Arnaud Demange qui nous rejoint. Il pirate le 32-16, c'est dans quelques minutes.
Apolline Matin.
L'indiscret RMC.
Mais d'abord les indiscrets avec Pierrick Bonneau. Bonjour Pierrick.
Bonjour Apolline.
Vous nous dites ce matin que les négociations entre le gouvernement et les oppositions sont au point mort sur le budget.
Les leaders d'opposition répètent à longueur d'interview qu'ils ne voteront pas le texte, donc il n'y a plus rien à négocier, confie un brin agacé, un conseiller ministériel. Depuis l'annulation de la dernière réunion des dialogues de Bercy, la vice-présidente LR de la Commission des Finances nous raconte qu'elle n'a plus aucun contact avec l'exécutif et pas plus avec les députés de la majorité. On n'a plus de marge de discussion, nous explique un député Renaissance. Avec les 45 milliards d'euros supplémentaires du bouclier tarifaire, on a perdu pour de bon les partisans de la rigueur et donc les Républicains. Et puis les LR se sont radicalisés avec l'élection prochaine de leur président, constate un ancien membre du parti de droite passé dans la majorité. Plus question pour eux de montrer qu'ils négocient avec Macron. Or, c'était nos seuls alliés potentiels pour voter le budget.
Pas de négociation, pas de majorité. Est-ce que le gouvernement peut encore éviter un 49-3?
Non, alors plus personne à l'Assemblée ne voit comment le gouvernement pourrait éviter un passage en force. Il y avait une réunion de groupe de la majorité hier matin à l'Assemblée. Un participant nous a raconté, ça y est, le 49-3 est intégré dans toutes les têtes, nous dit-il. Le ton a changé, plus personne n'imagine que le budget sera adopté dans des conditions normales. Et le message désormais, c'est resserrer les rangs, ça va tanguer. Même ressenti côté LR, un parlementaire anticipe, le gouvernement va nous donner des gages comme la réduction des droits de succession. On ne marchera pas. Ils diront que c'est notre faute et ils finiront par utiliser le 49-3.
Les indiscrets du service politique d'RMC.
RMC, Apolline Matin.
Demi place à l'économie.
Le chiffre d'affaires.
Le chiffre d'affaires, Emmanuel, le tribunal de commerce de Lille doit examiner aujourd'hui le plan de continuation ou non de l'activité de la chaîne de vêtements Camailleux.
Oui, la cinquième enseigne de vêtements préférée des Français a été placée en redressement judiciaire le 1er août avec des dettes de 240 millions d'euros. Alors depuis, l'actionnaire, l'homme d'affaires bordelais Michel Ohaillon, qui avait racheté la marque en 2020, a présenté un plan de relance prévoyant la fermeture de 208 magasins et la suppression de 500 postes. Il en resterait plus de 2000 postes et 308 boutiques, mais pour ça, il doit prouver qu'il possède 90 millions d'euros nécessaires pour payer les salaires et la collection d'hiver. Alors, il compte sur la vente du siège et entrepôt de Camailleux, mais en attendant, il a demandé l'aide de l'État, une avance, mais Bercy dit non, ce qui augmente les risques de rejet du plan de relance par le tribunal de commerce. Camailleux, c'est l'histoire d'un long déclin, un passé de fonds d'investissement en fonds d'investissement, sans jamais réussir à se débarrasser de ses dettes, et puis la concurrence qui s'intensifie au fil des années, la crise sanitaire arrive, une cyberattaque, la guerre en Ukraine, l'obligation de rembourser les loyers des boutiques fermées pour cause de Covid, mauvaise stratégie, mauvaise circonstance, ça fait beaucoup pour Camailleux.
Et donc la vie ou la fin de Camailleux se décide aujourd'hui. Il est 7h26.
RMC, Apolline Matin.
Attention. Demange pirate le 32-16.
Demange pirate le 32-16. Arnaud Demange. Bonjour Arnaud. Chaque jour, vous passez par le standard. Et ce qui fait réagir ce matin, Arnaud, c'est l'ouverture d'une enquête pour financement illégal qui vise la campagne présidentielle de Valérie Pécresse. Suite à un signalement de Julien Bayou.
On l'attendait pas celui-là dans ce dossier. Et alors ça fait réagir évidemment. On a Marc de Chenec, c'est en Moselle, qui nous a laissé un message. Oh mon Dieu, et ça y est, on comprend tout. En fait, c'est elle, l'ex de Julien Bayou, c'est Valérie Pécresse. Il a pécho Valérie Pécresse. C'est l'amour impossible entre la cougar millionnaire et le jeune anticapitaliste. Un peu comme si Ariel Dombal sortait avec Charlemagne. Valérie, Julien, une relation clandestine alors qu'ils mènent une campagne présidentielle chacun de leur côté. Mais les divergences politiques sont trop fortes. Alors ils se séparent. C'est la cassure. Lui, Il la balance pour des irrégularités dans sa campagne. Elle, elle se venge. Et elle le balance à Sandrine Rousseau. C'est beau comme du Shakespeare. C'est une histoire d'amour qui tourne mal. Putain, je vais chialer. Eh ben, écoutez, nos auditeurs ont du talent. L'équipe de Valérie Pécresse a quand même tenu à réagir. Elle nous a communiqué, Valérie Pécresse n'a ni la malhonnêteté, ni les compétences nécessaires pour organiser une fraude.
C'est petit.
Et Patrick Balkany nous a appelé lui aussi. C'est une autre évocation pour Manu Le Chypre. Je suis toujours pas imitateur. Eh ben putain, Valérie Pécresse, elle est aussi nulle en politique qu'en fraude. Hein. Normalement, les gens qui fraudent, ils s'enrichissent, ils font pas faillite. Tricher pour se retrouver avec 5 millions de dettes et faire 4%, c'est quand même la bonne grosse lose. Et c'est vrai qu'à droite, on doit être tellement déçu. On lui a fourni des dizaines et des dizaines de modèles de fraudeurs qui s'en sortent. Et non, c'est les débutants, ça. Ça veut en faire qu'à sa tête. Et ça trébuche. Et ben voilà, à tout à l'heure.
À tout à l'heure, cher Arnaud, on vous retrouve à 8h20. Il est presque 7h30, restez avec nous pour la météo de journal. Et le journal de 7h30, c'est avec Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Nos poubelles sont trop pleines et on est loin du compte pour le recyclage. La Cour des comptes rappelle les Français à l'ordre ce matin. Mettre des cols roulés plutôt que des cravates, c'est le conseil vestimentaire du ministre Bruno Le Maire face à la crise de l'énergie. Et puis les tensions politiques, même dans le football, la gauche et les macronistes refusent de jouer avec le RN en équipe de France parlementaire.
C'est la Cour des comptes qui a scruté nos poubelles et ça ne va pas du tout.
Oui, vous vous souvenez peut-être de cette publicité.
Réduisons vite nos déchets. Ça déborde. Grenelle environnement, entrons dans le monde d'après.
C'était à la fin des années 2000, au moment du Grenelle de l'environnement. Eh bien, on est, ça y est, dans le monde d'après. Il s'est passé 15 ans depuis cette campagne de communication. Et Romain Houck pour RMC, un rapport de la Cour des comptes révèle que ça déborde encore beaucoup trop.
Oui, on est encore bien loin des objectifs fixés par les gouvernements successifs. Et à ce rythme, difficile d'imaginer qu'on puisse les tenir. La France est à la traîne, nous dit la Cour des comptes. Objectif numéro 1, c'était de réussir à faire baisser la production d'ordures des Français à maximum 501 kilos par an et par habitant d'ici 2030. On est loin du compte, puisqu'en moyenne, un Français jette 582 kilos de déchets par an, c'est 80 kilos de trop. Et quand on regarde le détail de ce qui est jeté, on se rend même compte que 80% de ce qui finit dans la poubelle marron, la poubelle fourre-tout, eh bien 80% pourrait être valorisé si c'était correctement trié. Un autre objectif, c'est la fameuse poubelle jaune pour les déchets plastiques et le carton. Elle doit être généralisée d'ici la fin de l'année, dans 3 mois donc. Mais fin 2021, seuls 62% des foyers étaient équipés.
Il faut donc réduire nos déchets et il faut réduire également notre consommation d'énergie. Ça, vous l'avez bien compris, le gouvernement nous répète que le chauffage ne doit pas dépasser les 19 degrés cet hiver si on veut éviter des coupures. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, dit même qu'il mettra des cols roulés plutôt que des cravates tant que le chauffage sera éteint à Bercy. On a donc un ministre qui nous dit comment nous habiller. Garance Munoz et Tanguy Roman Clavelou pour RMC.
Le ministre de l'économie en col roulé, Marie-Madeleine, trouve cette annonce ridicule.
Ça n'a pas de sens. Cravate ou pas cravate, qu'est-ce que ça peut nous faire? S'il a froid aux pieds, il met des chaussettes. Ça ne nous intéresse pas. Ils ont peut-être mieux à faire que de parler de bêtises comme ça.
Puis ce genre de promesse, Aza n'a pas vraiment confiance.
Ils donnent des leçons et ils nous disent de faire ça, de faire ci. Mais allez voir si chez eux, ils font vraiment des économies.
Et tout le monde n'a pas le même salaire que le ministre. Avec son budget d'étudiante, la sobriété, c'est déjà un réflexe pour Jade.
On ne peut pas se permettre de chauffer plus que ça. Enfin, personnellement, je préfère me nourrir plutôt que chauffer ma pièce. Et des habits, j'en ai et je préfère les empiler plutôt que exploser mon budget, quoi.
Mais d'après sa camarade de classe, Louane, marteler les bons conseils reste d'utilité publique.
Compte tenu de la visibilité que ces personnes-là, elles ont l'occasion de pouvoir promulguer des messages, je trouve ça normal.
Les deux amis insistent, même si les petits gestes peuvent nous aider à passer l'hiver, il faudra des mesures d'économie plus globales pour lutter contre l'urgence climatique.
Alors on verra si Bruno Le Maire porte la cravate ou le col roulé ce soir à l'Élysée pour un dîner de la majorité qui sera consacré notamment à la réforme des retraites, peut-être dans le cadre d'un projet de loi rectificatif en début d'année prochaine. Voilà l'idée du moment pour faire passer cette réforme. On sait que la majorité est divisée à ce sujet. Elle est divisée aussi quand il s'agit de football. La gauche et les macronistes refusent de participer à un match de l'équipe de foot parlementaire, match caritatif qui était prévu ce soir. Pourquoi ? Eh bien parce que des députés RN font partie de cette équipe parlementaire pour la première fois. Les Renaissances sont appelés à ne pas y aller, mais le député et défenseur Modem, Erwan Balanant, ne voit pas le problème.
On peut
peut se dire aussi que quand à partir du moment où on met le maillot, ça efface nos différences politiques et nous ne sommes plus là en tant que représentants d'un parti politique, mais tout simplement en tant que représentants de personnes dans un territoire qui ont voté pour nous. Moi, je pense qu'on aurait pu tout simplement mettre le maillot, oublier nos différences et faire ce match. Moi, j'ai l'impression que ce match n'aura pas lieu maintenant et c'est bien dommage.
Il est 7h35 sur RMC et on suit la situation ce matin en mer Baltique où la Russie est accusée d'avoir saboté ses propres gazoducs Nord Stream qui ne fonctionnait pas ou plus depuis cet été. Un énorme bouillonnement à la surface a été observé. Des explosions sous-marines suspectes après des détonations font dire à la Commission européenne, au Danemark, à la Suède, à l'Ukraine également que la Russie en est responsable. La Russie qui est encore un peu plus isolée ce matin puisque même la Chine ne reconnaît pas les référendums d'annexion russe en Ukraine. Sans surprise, c'est le oui qui a gagné. Je vous donne les résultats. Des chiffres soviétiques, 87, 93, 98 et 99% de oui dans ces quatre régions ukrainiennes. Écoutez ce que dit la chef de la diplomatie française, Catherine Colonna.
Ne parlons pas d'élections. Il y a de faux référendums qui sont organisés, qui n'ont pas de légitimité. Comment voulez-vous que les gens s'expriment librement, sous la contrainte et dans des territoires qui sont occupés par une puissance étrangère? Ces faux référendums que la Russie organise doivent appeler de la part de la communauté internationale une réponse claire. Ils n'ont aucune légitimité, aucune valeur. Nous ne les reconnaîtrons pas. Et qui plus est, ils entraîneront des sanctions de la part de la France, de l'Europe et d'autres États de la communauté internationale.
L'hôpital va mal, répètent les soignants. Et bien on a la preuve en chiffres ce matin. Plus de 4300 lits supprimés en 2021 dans les hôpitaux, remplacés, si on peut dire ça comme ça, par 2700 places partielles et plus de places de jour. On y reviendra tout à l'heure dans le journal à 8h. C'est le sujet de discussion en ce moment à Marseille. Il y a des loups à Marseille. On en parle, on le sait, depuis que des chèvres ont été attaquées. C'était le week-end dernier dans les montagnes à La Penne-sur-Huvonne. On est vraiment dans les montagnes de Pagnol, vraiment aux portes de Marseille. On savait déjà que le loup était présent en Provence, mais pas aussi près de la deuxième ville de France, nous confirme Lola Baye à Marseille pour RMC.
Des silhouettes blanches, vraisemblablement des loups, aux portes de Marseille. La vidéo diffusée sur les réseaux sociaux a fait près de 5000 vues. Depuis, le loup est sur toutes les lèvres.
J'ai un peu peur de monter à la colline maintenant.
Eh bien, on a été un peu surpris quand même. Déjà qu'on a des sangliers, des renards, maintenant les loups.
Il faudrait peut-être essayer de les capturer.
Un traumatisme encore vif pour Sylvie Politi, l'agricultrice qui a perdu la moitié de ses chèvres, 12 ans la nuit de samedi à dimanche. Aujourd'hui, elle n'arrive plus à revenir sur les lieux. Son champ est clairsemé de carcasses recouvertes de pages blanches.
Quand je vois comme elles sont comme ça, elles avaient tout un prénom et tout. Elles venaient manger dans ma main et tout. Que dire de plus? Je sais pas, j'ai pas de mots. J'ai plus de mots.
Le visage cerné, Denis Follenbach, garde-chasse, patrouille tous les soirs depuis le drame. Il réclame plus de moyens.
Il faudrait mettre des caméras, mettre aussi de la présence humaine tourner un peu plus, peut-être la nuit.
De son côté, le maire Nicolas Bazouki a installé sur site 3 caméras mobiles et mis en place une cellule de veille.
Et puis de Marseille, on part en Normandie, puisque le Quintet, Quentin, c'est à Vire.
Oui, des loups, on passe aux chevaux. À 13h50, le Quintet RMC Découverte. Le pronostic de la Dream Team des courses RMC, le 11, le 3 ce matin. Le 11, Farrell 7, favori. L'outsider, le 3, Eddy Dupomereux.
C'était le journal de Quentin Vinet, 7h38. On joue sur RMC. On joue et on vous offre déjà le maillot de la Coupe du Monde. Et puis vos places pour Tunisie-France le 30 novembre prochain. Le vol, l'hébergement, vos places pour le match, on vous offre tout. C'est simple sur RMC, on s'occupe de tout. Alors vous vous inscrivez dès maintenant, vous envoyez RMC au 7-32-16. RMC au 7-32-16 pour vos places. Tunisie, France, le grand gagnant sera tiré au sort vendredi. Bonne chance à tous.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Mon prochain invité est le patron de 1800 supermarchés qui font partie de votre quotidien. Bonjour Didier Duhaupan. Intermarché, c'est vous. Il y a des produits qui manquent en rayon chez vous. C'est une bataille des prix qui gronde et c'est pas toujours à cause d'une pénurie. On en parle dans un instant. Vous êtes dans ce studio.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Bienvenue sur RMC, il est 7h41.
L'invité du jour.
C'est vous, Didier Duhaupan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président du groupement des Mousquetaires. Ce sont les magasins Intermarché, Bricomarché, Bricorama. Vous avez une quinzaine d'enseignes, plus de 3000 magasins en France. On va plonger avec vous dans toutes ces questions de consommation et de prix. D'abord, j'ai une question. Quand on se promène dans vos rayons, on découvre qu'il n'y a plus de bouteilles d'Evian, de Badois ou de Volvic dans les supermarchés Intermarché. C'est un choix ou c'est une pénurie ?
Non, c'est pas un choix. C'est un des combats que nous menons à la rentrée. Vous savez, je vais pas vous apprendre évidemment qu'il y a une inflation terrible, qu'il y a des événements importants, et puis un certain nombre d'entreprises, de grands industriels de l'agroalimentaire, qui profitent de ces circonstances pour augmenter leurs tarifs un petit peu plus qu'ils ne devraient.
Et donc vous dites non, c'est-à-dire.
Et nous on dit non. Et dans la circonstance précise, on nous demande des augmentations absolument.
Alors
impossibles.
Quand vous dites on, c'est Danone en fait, hein.
C'est Danone, ça peut être le groupe Mars, et d'autres grandes entreprises qui profitent de ces circonstances pour mettre des hausses vraiment pas raisonnables du tout.
Ils vous demandaient combien là sur les bouteilles de viande
en la matière. Vous savez qu'on a aussi des usines, des sources, et on connaît évidemment l'augmentation des prix industriels. Il est évidemment, on va pas le nier, le carburant, l'énergie, tout ça. Mais chez nous, les prix dans nos usines, les prix de revient industriels augmentent de 7, 8, 9 % bon, suivant les catégories. Et on se dit, ça sont des hausses raisonnables. Les premières hausses qui nous étaient demandées, c'était d'ordre de 22%.
22% d'Anon venait vous voir et
sur les bouteilles d'eau minérale, d'eau gazeuse que vous connaissez.
22%.
Suite à nos rencontre pour le moment, ça baisse de moitié. Oui, on est passé de 22 à 11-12%, et on trouve que c'est encore beaucoup. Et nous n'avons pas choisi. C'est une pression qui est exercée. Nous continuons à passer nos commandes et nous sommes livrés au compte-goutte en matière d'eau d'ailleurs.
En fait, ils jouent le bras de fer.
Ils jouent le bras de fer en nous livrant un petit peu moins. Et ce bras de fer, nous sommes tout à fait disposés à le mener.
Est-ce qu'il y a d'autres produits justement sur lesquels vous êtes prêts à mener ce bras de fer, à dire écoutez, ça suffit, l'inflation a bon dos, vous êtes en train de vous faire du beurre sur le dos des Français, on n'est pas d'accord.
Il y a d'autres grands industriels qui abusent, il y a le groupe Mars par exemple sur les confiseries de chocolat qui nous demandent des hausses de prix trois fois supérieures à leurs concurrents. Là on peut comparer entre grands industriels, Nestlé, Ferrero, tiennent compte de la hausse des coûts industriels et le groupe Mars, par exemple, sur ses confiseries de chocolat, vous savez. Mars,
sur le même genre de produit, avec le même genre de matière première.
Sur le même genre de produit d'éthique, les mêmes techniques pour fabriquer. On nous demande des hausses trois fois supérieures. Pourquoi ? Parce que l'état-major du groupe Mars ou l'état-major hier de Danone a décidé que cette année, il fallait monter un petit peu le dividende des actionnaires. Et on en profite. Eh bien, nous disons non, ça n'est pas possible. Il faut rester dans ce qui est entendable et supportable pour le consommateur. De toute façon, il n'y a pas de mystère. Quand les prix augmentent de façon extraordinaire sur certains produits, le consommateur se détourne automatiquement. Donc, ce qui aura été gagné, éventuellement, s'il arrive à arracher auprès de certains autres distributeurs ses prix, il le perdra en volume, puisque les clients se détournent.
Et tant pis, au risque que ces produits manquent. Alors, du coup, on va penser pénurie. Vous vous dites, non, c'est pas des pénuries, c'est juste qu'on veut pas les acheter à ce prix-là, quoi.
On veut pas les acheter à ce prix-là.
Alors, il y a en revanche d'autres produits sur lesquels ça devient presque une fierté de les vendre plus cher. Et c'est le cas du lait. Vous dites, chez nous, le lait est plus cher qu'ailleurs. Et au fond, c'est presque un étendard désormais.
Voilà. On a des choses complètement différentes. En effet, il faut s'occuper du monde agricole qui subit des contraintes absolument épouvantables. Et les producteurs de lait font partie de ça. Et le dialogue avait réussi à s'instaurer, nous le souhaitions en tout cas, entre producteurs de lait, entre industriels et entre distributeurs. Et pour ne pas être un obstacle, nous avons commencé dans notre usine, dans notre laiterie et auprès de nos producteurs de lait qui livrent cette laiterie en disant « Nous allons être exemplaires, combien vous faut-il pour vivre de votre travail ?» On nous a dit 51,3 centimes, vous voyez, soyons précis.
Ah, c'est
précis.
Très précis, oui.
51,3 centimes, nous avons dit « Nous vous achetons le lait, 51,3 centimes pour ce qui est de notre laiterie. » Et pour faciliter le dialogue avec les autres industriels, nous avons dit « Nous allons mettre le lait à 95 centimes dans nos rayons et faciliter les discussions. » Eh bien, ce qui s'est passé, on s'attendait à mener les fameuses réunions tripartites entre ces industriels, ces producteurs et nous-mêmes. Eh bien, les industriels ne sont pas venus jusqu'alors aux réunions que nous avions provoquées. Donc, on s'est retrouvés avec nos amis producteurs de lait qui nous félicitent. La FNSEA même nous dit que nous sommes exemplaires sur le sujet.
Oui, mais la troisième personne des réunions...
Parce qu'ils ne veulent pas dire devant témoins, c'est le cas de le dire, devant témoins, combien ils rémunèrent véritablement les éleveurs, les producteurs.
Tout ce que vous nous dites ce matin, c'est d'autant plus intéressant, hein, parce que évidemment ceux qui nous écoutent ce matin le savent. Didier Duhaupin, vous êtes assez discret. On voit beaucoup Monsieur Leclerc, on commence à voir un peu le patron de Super U. Vous, qui êtes à la tête des Intermarchés et du groupe Mousquetaire, vous êtes assez discret. Mais je sens bien que ce matin, la raison pour laquelle vous avez fini par accepter notre invitation, c'est qu'au fond, vous en avez presque gros sur la patate, quoi. Vous vous dites à un moment, faut dire les choses, il faut un tout petit peu lever le rideau et dire voilà ce qui se passe en coulisses, voilà la réalité, et on en a un peu assez que les consommateurs ne voient que le bout de la chaîne, il faut leur dire ce qui se passe derrière.
Absolument, il faut dire aux consommateurs, il faut dire aussi au monde agricole ce qui se passe. Nous sommes toujours, alors c'est facile, nos parkings sont connus, nos enseignes sont connues, il est assez facile d'aller déverser du lait, du fumier sur les parkings pour attirer l'attention, et le monde agricole a raison d'attirer l'attention sur ces difficultés. Mais le maillon essentiel, nous n'achetons que très peu de produits en l'état au monde agricole, il est transformé par ces grands industriels.
Et ça devient les yaourts, et ça devient les crèmes, et ça devient tout le reste.
Et ces grands industriels ne veulent pas indiquer dans leur contrat, précisément, faire preuve de la transparence nécessaire pour dire quel prix ils payent réellement aux éleveurs. Et c'est ce que nous revendiquons.
Une question encore sur le lait. Est-ce que les consommateurs suivent ? Vous avez augmenté les prix du lait. Est-ce que les consommateurs suivent et comprennent votre combat ?
Eh bien, nous avons, en général, les deux types de réactions en disant « Mon Dieu !» Tout le monde, tout augmente. Et puis, vous avez raison, vous êtes absolument exemplaire. Et c'est plutôt.
C'est plutôt cette attitude-là qui, pour l'instant, tient la barre. Une question encore, parce que vous vendez des granulés, et notamment chez Bricomarché, les fameux granulés, ce qu'on appelle les pelés. Est-ce que vous en avez encore? Parce qu'on a de nombreux auditeurs qui nous appellent, qui nous disent voilà, moi, je me chauffe au bois, je me chauffe au granulé, au pelé. Non seulement le prix a augmenté, mais surtout, j'en trouve plus.
Eh bien, on est à peu près dans la même situation. On a du mal à s'approvisionner, et quand il y a difficulté d'approvisionnement, malheureusement, on l'a vu pour d'autres matières premières, les prix montent. On a énormément de difficultés à s'approvisionner, mais nous en avons encore.
Et sur la sobriété, vous ferez des gestes, vous aussi ?
Sur la sobriété énergétique, on y travaille évidemment depuis des années. Alors, il y a les mesures actuelles qui visent à diminuer de 10%, et nous serons exemplaires à la grande distribution. Vous savez, on a été la première branche professionnelle à annoncer ce que nous ferions. Baisser la température, évidemment, dans nos magasins, diminuer l'intensité électrique. De la technique aussi, on va pas y revenir, mais ne pas mettre les fours qui font cuire le pain en marche aux heures de pointe, parce que c'est bien ça le problème, ça va être les heures de pointe d'hiver. Mais le gros du boulot, il a déjà été fait en amont, c'est la fermeture des vitrines réfrigérées. Vous savez que nous avons des vitrines avec des portes, ça c'est vraiment porteur d'économie. C'est tous les changements d'éclairage pour passer au LED, c'est la variation et c'est la récupération de chaleur des groupes qui produisent le froid.
Donc vous allez pouvoir faire toute une chaîne dont vous profiterez au final. Didier Duhaupin, merci d'être venu ce matin. Je le disais, vous êtes un homme plutôt discret. Vous êtes à la tête du groupement des Mousquetaires, Intermarché, Bricomarché, Bricorama. Merci aussi d'avoir un peu mis un coup de pied dans la fourmilière ce matin en nous disant combien Danone ou Mars vous imposaient et faisaient en sorte finalement de jouer sur l'inflation pour faire augmenter les prix. Merci d'avoir dit ce qui se passe en coulisses. Il est 7h50.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Des pipelines sous-marins complètement hors d'usage après deux explosions. Accusation de sabotage en mer Baltique sur des gazoducs qui relient la Russie à l'Europe. Les explications de Nicolas Poincaré, c'est dans un instant sur RMC.
Apolline Matin.
Le bonus RMC.
Le bonus de Charles. Le concours Masterchef a rendu son verdict hier soir.
Oui, et c'est Marc Amori qui l'a remporté hier soir face à Clara. Il a fait la différence, Apolline, dans l'ultime épreuve grâce à sa tarte au citron. Alors, je suis désolé de vous spoiler si vous comptiez regarder le replay, mais a priori, vous ne serez pas si nombreux car cette relance de Masterchef a été un échec pour France 2 en termes d'audience. Moins de 2 millions pour le premier épisode et ça n'a fait que décroître à tel point que France 2 a en fait écourter le concours. Seulement 6 épisodes contre 8 prévus initialement. La finale ne devait avoir lieu que dans 2 semaines, mais la chaîne a préféré limiter les dégâts. Ce qui fait dire à nos confrères de La Voix du Nord que pour Masterchef, la mayonnaise n'a pas pris, que le concours a fait un four. Bref, à mon avis, pas certain qu'ils remettent le couvert pour une deuxième saison.
Bah, c'est dur quand il y a Top Chef.
C'est vrai.
Franchement, c'est vrai, ils ont mis la barre très haut.
Il y avait Massinger en face, bref. Ça n'a pas pris.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h53, c'est l'heure de Nicolas Poincaré.
Expliquez-nous,
Nicolas Poincaré. De mystérieuses explosions ont endommagé les gazoducs Nord Stream qui relient la Russie et l'Allemagne. L'hypothèse d'un sabotage est la plus vraisemblable.
Oui, l'hypothèse d'un sabotage est la plus vraisemblable. Pourquoi ? Eh bien, parce que l'hypothèse inverse n'est pas du tout vraisemblable. Une explosion sous-marine, ça peut être un accident, mais trois explosions en quelques heures, en trois endroits différents sur deux gazoducs, eh bien, ça ne peut pas être accidentel. Le gazoduc Nord Stream 2 a d'abord été touché par une explosion dans la nuit de lundi à mardi, et son jumeau, le Nord Stream 1, a ensuite lui aussi été endommagé par deux nouvelles explosions. Les instituts de sismologie danois et suédois ont enregistré des secousses et ils les attribuent à des fortes détonations. Autrement dit, le plus vraisemblable, c'est que des bombes ont été déposées et résultat, on assiste à une gigantesque fuite de gaz, à des bouillonnements à la surface de la mer. Les photos aériennes montrent des cercles allant jusqu'à 1 km de diamètre à l'intérieur duquel la mer est blanche. C'est assez spectaculaire. Cela se passe en mer Baltique, dans les eaux internationales, mais très près du Danemark et de la Suède.
Et ces deux gazoducs, hein, ils étaient hors service.
Oui, ce sont deux très grands gazoducs jumeaux qui relient donc la Russie directement à l'Allemagne en passant sous la mer Baltique. Le 2 est un tuyau flambant neuf qui venait d'être achevé mais qui n'a jamais été inauguré à cause de la guerre en Ukraine. Le 1, en revanche, continue à nous fournir du gaz jusqu'à cet été parce qu'il n'y a pas d'embargo sur le gaz russe, sauf que c'est finalement Moscou qui a décidé de couper le robinet pour protester contre les sanctions. D'abord, les Russes ont inventé un problème technique, une turbine en panne, et puis le 5 septembre, ils ont finalement dit la vérité. Oui, ils ont bien décidé de fermer le gaz pour protester contre le soutien militaire de l'Europe à l'Ukraine. Depuis cet été, les deux gazoducs étaient donc fermés, mais éventuellement faciles à remettre en service à la fin de la guerre, par exemple. Sauf que désormais, eh bien, ils sont troués, ils sont pleins d'eau et sans doute définitivement hors service. En tout cas, leur remise en état coûterait une fortune.
Alors la question maintenant, c'est de savoir qui sont les auteurs de ce sabotage.
Et c'est effectivement la question et malheureusement, on n'a pas la réponse. L'Ukraine accuse la Russie. La Russie n'exclut aucune hypothèse. L'Europe parle d'un sabotage, mais sans désigner le coupable. Et les Américains ne veulent pas spéculer. Mais spéculons tout de même un peu. D'abord, on peut exclure une organisation terroriste parce que ces tuyaux se trouvent à une centaine de mètres de profondeur et il faut tout simplement un sous-marin pour les atteindre. Seule une armée, donc un État, est capable de mener une telle opération. Alors, ensuite, on peut se demander à qui profite le crime. On sait que les Américains ont tout fait pour s'opposer à la mise en service de ce gazoduc Nord Stream 2. Ils avaient même décidé de sanctionner les entreprises européennes qui participaient à la construction en expliquant que les Européens allaient devenir trop dépendants au gaz russe. Et accessoirement, les Américains préfèrent bien sûr qu'on achète le gaz américain. Sur le papier, Washington a donc un mobile. Sauf que le scénario de l'armée américaine qui viendrait saboter un gazoduc stratégique au cœur de l'Europe, c'est assez inimaginable. En tout cas, les spécialistes du renseignement et les militaires français que j'ai interrogés hier soir ne l'envisagent pas une seule seconde.
Et du coup, les regards, eh ben, ils se tournent vers Moscou.
Et oui, si ce n'est pas les Américains, si ce n'est pas un pays européen, parce qu'on ne voit pas lequel aurait intérêt à ce sabotage, on n'imagine pas non plus que l'Ukraine en soit capable. Donc, par déduction, il reste effectivement les Russes, dont les sous-marins sont très présents dans la zone 365 jours par an. Si c'était le cas, ce serait le signe d'une fuite en avant, de la volonté de définitivement priver l'Europe de gaz en espérant que l'Europe grelotte et que les opinions publiques européennes se retournent contre les sanctions. Sauf qu'on ne comprend pas très bien l'intérêt des Russes de détruire leurs propres installations, puisque c'est à Gazprom qu'appartiennent ces gazoducs et que les Russes ont dépensé des fortunes pour les construire. Reste donc le mystère reste donc entier à cette heure. Les saboteurs, pour l'instant, ont réussi à ne pas se faire prendre, en tout cas pour l'instant.
Et personne n'a revendiqué, en tout cas, ces explosions. Les explications de Nicolas Poincaré. Il est 7h57, vous restez avec nous. Dans un instant, c'est la météo de journal.